I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ew, get off of me! Ah, as if!
Vous trouvez que Clueless est l'un des meilleurs teen movies de tous les temps?
As if!
Perso, je trouve qu'il mérite bien un procès.
Louis, take his gun.
Quand on a une plage dans la tête.
What you got between your legs is your business, and what I got is mine.
You may not be able to fight like a samurai.
So fat.
But you can at least die like a samurai.
Et ne pas laisser le cinéma français tranquille.
Empieza el matriarcado.
Dracarys.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Alix Martineau, chargée des podcasts chez Mademoiselle, et bienvenue dans un nouveau procès de film de ce merveilleux podcast qu'est Affiché. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, je vais faire sa fête à Clueless, un film culte d'Amy Heckerling de 1995, et souvent considéré comme l'un des meilleurs teen movies jamais réalisés. Je ne suis pas du tout d'accord. Ouh là là. C'est pourquoi j'incarnerai l'accusation dans ce procès très sérieux et très réglementé. Et face à moi, j'ai la Regina George du teen movie, la queen des films sur ados jouée par des acteurs de 34 ans, mais aussi la directrice des rédactions de Mademoiselle et Rocky, Mélanie Wanga.
Bonjour, merci pour cette présentation magnifique.
Comment ça va? Tu te sens prête là pour un procès?
Je te sens très très chaud là, donc j'ai un petit peu peur.
Mais la raison pour laquelle je me suis autant préparée, c'est parce que je sais combien tu aimes ce film et combien de fois tu l'as vu aussi, puisque tu m'as dit 170.
À peu près, au doigt mouillé.
Donc je me suis dit, il faut que je me blinde à fond, surtout que je suis pas non plus en hate total de ce film, c'est juste j'aime bien le remettre en question, le titiller, le piquer, quoi.
Le contextualiser.
Voilà, c'est ça. Donc j'espère que t'es prête pour le procès. Avant de commencer, je remets quand même une petite piqûre de rappel sur Clueless. C'est l'un des seuls teen movies de son époque réalisé par une femme, Amy Heckerling. Donc ça, c'est important
déjà
de le souligner.
Déjà, tu lui donnes un point rien que pour ça.
Tu vois, je suis quand même impartiale au fond, puisque je dois être animatrice de ce podcast. Et Cher, donc c'est l'histoire de Cher qui est la plus belle fille du lycée, la plus populaire, mais aussi la plus superficielle. Et du coup, elle va tenter, à travers de ses soi-disant bonnes actions, de devenir un peu moins égoïste et ainsi pécho son demi-frère. Voilà.
Oui, bon, d'accord. Ok, ça oui.
Donc je rappelle.
Argument suivant.
Je rappelle qu'il s'agit d'un procès en trois parties. Donc il y a d'abord l'instruction, le retournage de cerveau, puis le jugement. Je propose qu'on commence tout de suite par l'instruction.
Round one, fight.
Du coup, le but de l'instruction, c'est que donc je vais commencer, puisque je suis l'accusation, je vais me lancer dans un pamphlet anti-Clueless. Ouais. Et Mélanie, tu auras le droit de répondre dans une seconde partie pour défendre le film.
Ok, mais j'ai le droit de faire des objections, attention.
T'as le droit de faire des objections, tout à fait.
Et certains attorneys, c'est moi. Ok.
Du coup, je vais parler un petit peu de comment j'ai découvert le film, parce que je pense que ça a beaucoup joué sur mon avis sur le film. Je l'ai découvert trop tard, voilà. Mmh. Puisque le film a le même âge que moi.
Wow.
Je suis née en 95.
Oh là là, le coup de vieux là. D'accord. Ok.
Donc je l'ai. Enfin, c'est pas un film que j'ai vu tôt, parce que j'ai vu les teen movies un peu plus de ma génération, quoique.
Des années 2000, quoi.
Ouais, c'est ça. Mais après, j'ai adoré Virgin Suicides, donc finalement, c'est vieux
aussi.
Et est-ce
que t'avais vu la série Clueless?
Ah non, mais moi, non.
Non, d'accord.
Non,
KD2A, non, tu connais pas.
Bah, très peu. En plus, je regardais pas trop la télé, donc, enfin, c'est pas trop ma pop culture, quoi. Du coup, je l'ai découvert tard, et je l'ai revu cette année. Et je l'avais complètement oublié, parce qu'il faut dire que ce film est oubliable. Enfin, il y a tellement d'intrigues. Non, mais c'est vrai, il y a tellement d'intrigues qu'en fait, finalement, ça s'oublie assez rapidement de quoi il est question. Vraiment, même si on se souvient tous de Cher, bien évidemment. Et c'est vrai que je l'ai revu hier soir pour me préparer. J'adore les fringues. J'adore le côté vintage.
Grosse influence des fringues.
Ah ouais, c'est incroyable. J'adore les répliques hyper piquantes, parce qu'il faut dire que c'est quand même bien écrit à des moments, les dialogues sont super écrits. Ça marche les 15 premières minutes, après on se fait chier comme j'aime.
Tu dis ça avec un petit éclair de plaisir dans les yeux, on se fait chier.
Enfin, moi perso, je me suis fait chier. Et déjà, le premier truc que j'ai à reprocher à ce film, c'est son nom. Oui, ça s'appelle Clueless. Alors franchement, ça c'est atroce parce que j'ai vu que les Québécois qui sont très forts en traduction de noms l'avaient traduit par les collégiennes et franchement
de Beverly Hills.
Ah ouais, les collégiennes de Beverly Hills.
Tout à fait.
Mais c'est assez flatteur parce que si j'avais été eux, enfin ils sont connus pour traduire un peu littéralement les titres.
Comme Toy Story, histoire de jouer, quoi.
Voilà, c'est ça. Et ben, ce serait Les Cervelés, L'Idiote, La Débilos.
Ouais, enfin, ouais. Après, je pourrais développer, mais c'est comme dans le film. En fait, ça joue un peu sur le côté clueless. Et en fait, en vrai, elle n'est pas si clueless que ça. Mais effectivement, c'est pas très flatteur.
C'est pas ultra flatteur. Et c'est en fait assez révélateur, je pense, d'un film qui se moque de l'adolescence, plus qu'il n'en parle, en fait. Et du coup, c'est drôle à voir quand t'es plus vieux, peut-être pour te foutre de la gueule des gens qui ont 2 ans de moins que toi, mais tu vois, je sais pas, je me dis...
Alors, objection. Je pense que c'est parce que tu ne l'as pas vu quand tu étais plus jeune, parce que moi, j'avais 11 ans quand je l'ai vu, et c'était toute ma vie, ce film. Enfin, quand je l'ai vu, et je pense la rappeuse Iggy Azalea, très grande rappeuse, qui du coup a fait sa chanson de 2014, Fancy, et je sais pas si t'as déjà vu le clip de Fancy,
non.
Et ben, je pourrais te le montrer après, mais c'est Clueless, en fait. Elle a repris de A à Z, Clueless, elle joue Cher et tout, et elle a donné des interviews à l'époque, et elle a dit, mais quand j'ai vu ce film pour la première fois, j'étais une meuf en Australie, meuf blanche, dans un bled paumé, et j'ai vu ça et je me suis dit, mais waouh, il y a vraiment des meufs de mon âge qui vivent comme ça, mais c'est incroyable. Et je pense que ça a eu cet effet sur plein de jeunes.
Alors, pas identification du coup.
Non, parce genre que... le côté une Barbie qui prend vie alors que t'as 11 ans et tu te dis, oh mon dieu, où est-ce que j'étais pendant toute cette
année. Ok, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui on cherche plus l'identification, on cherche plus les représentations, alors que c'est vrai que fut un temps, notamment dans les comédies américaines, c'est plus l'American Dream qui est projeté sur l'écran.
Ah bah,
et
clairement.
Du coup, là c'est. Enfin,
mais
c'est
on y reviendra, mais il y a quelque chose aussi qui relève de la puissance, tu vois. Enfin, Cher, la meuf, elle maîtrise son monde, quoi. Elle est toute puissante, c'est la queen, quoi. Donc, je pense que ça attire beaucoup, en tout cas, les jeunes à l'époque qui regardaient.
Oui, c'est clair. Après, je la trouve, tu vois, dans sa toute puissance, je la trouve hyper caricaturale. Elle est inculte.
Tant que ça, elle aime bien Hamlet, hein.
Ouais, parce qu'elle a vu le film.
Voilà, avec Mel Gibson.
Mais elle a pas lu la pièce. Elle chouine aussi. Elle est sans cesse à faire ses jérémiades. Là, c'est insupportable. Je n'en pouvais plus. À la fin, au début, j'étais morte de rire dans le film. Et à la fin, j'étais là, ta gueule. Et en fait, même un peu plus profondément, elle est intéressée exclusivement par son apparence et sa relation avec le sexe opposé, qu'elle en veuille ou qu'elle n'en veuille pas. Voilà, c'est un peu ce sur quoi repose le film, donc du coup, pas grand-chose. Voilà, j'ai parlé aussi des multiples intrigues qui vraiment fleurissent toutes les 10-15 minutes. Du coup, il n'y a pas vraiment d'intrigue principale, il n'y a pas vraiment d'arc narratif. C'est un peu bancal comme scénario, je trouve. Et il y a peu d'évolution de la part de Cher. Et en fait, elle évolue, puisqu'au début, elle voulait pas de gars, et à la fin, elle en veut un, et c'est son demi-frère, c'est super.
Et entre-temps, elle fait un relooking de l'âme.
Ah ouais, non, mais... le relooking spirituel, c'est ma passion. Je vais faire un relooking, mais c'est drôle en même temps. En fait,
c'est ultra drôle, c'est une satire, en fait.
Mais bien sûr, c'est très drôle. Après, j'ai noté aussi que c'était pas mal problématique sur plein de points.
Ah bah, on est en 1995, hein.
Non, mais voilà, c'est ça. C'est toujours dur de juger un film 25 ans après sa sortie et de dire, ah, il est problématique. Bah forcément, en fait, voilà. Mais il y a quelques trucs... Déjà, c'est un film plein d'injonctions en voix off parce qu'elle t'explique un peu comment vivre
la vie, quoi.
comment vivre une vie de Barbie. Voilà, il y a plein de stéréotypes de genre et sur les orientations sexuelles. Enfin, voilà. Mais quand même, si je dois lui concéder quelque chose, c'est que c'est fait avec pas mal de bienveillance. Il y a pas trop de méchanceté, je trouve, dans ce film. Enfin,
ouais, c'est très. Mais il y a beaucoup d'espoir, en fait.
Ouais, mais c'est aussi assez naïf et innocent. Du coup, c'est pas méchant, mais c'est quand même problématique. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Bon, clairement, ça passe pas le test de Bechdel.
Attends, avec Dion.
Bah, elle parle de mec.
Elle parle de fringues. Ça passe, ça marche.
Pas pendant un quart d'heure.
Non, mais attends, le test de Bechdel, c'est juste un moment. Il suffit qu'il y ait une phrase où elle parle d'autre chose que d'un mec et ça marche. Non, mais ça marche.
Ouais. Aussi, il y a 4 fiches des profs en toute impunité. Et ça, j'étais là, waouh. Et donc, c'est ça le modèle qui renvoie aux jeunes.
Elle essaye de les rendre heureux, mais oui. Je suis d'accord, ça craint.
Après, j'aime bien ce truc où elle dit que, en fait, t'as pas besoin d'être bonne scolairement pour réussir. Ça, c'est un vrai truc. qui est discutable, mais moi j'aime bien. Et après, bah, bien sûr, le plus truc le plus problématique pour moi, c'est qu'il pécho son demi-frère et ça dégoûte salement. Ça dégoûte. En plus, il est mineur, il est majeur. Et on ne sait jamais ce qu'en pense le père, puisqu'il se pécho, qui est le bisou, la scène de bisou la plus dégoûtante de l'histoire du cinéma.
Oui, mais c'est Paul Rudd quand même. Ça fait passer la pilule.
Non, 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 non. Paul Rudd, il me dégoûte dans ce film. Il me dégoûte sévère, alors que je l'adore. Mais vraiment, je sais pas.
Je sais pas. C'est vrai que c'est un choix qu'ils ont fait en termes de scénario, parce que dans l'original, on en parlera plus tard, mais c'est adapté de Emma de Jane Austen. Et en fait, à la fin de Emma, elle chope un mec, mais c'est pas son demi-frère, c'est juste un ami de la famille, mais c'est un ami de son père, donc il y a déjà un truc un peu ouais. chelou.
C'est peut-être qu'ils ont essayé d'injecter du Shakespeare dedans, ils se sont
et
dit
si
on a parlé d'un
demi-frère.
C'est horrible.
Je pense pas qu'ils auraient fait ce choix-là en 2020. Mais
ah
bon.
Ouais, non, ça dégoûte. Et aussi, j'ai noté que je trouvais que c'était un film un peu trompeur, parce que je pense que c'est un faux chick flick. Alors c'est une théorie que j'ai.
Okay.
Parce qu'en fait, on pense que c'est Cher le personnage principal, alors qu'en fait, c'est Josh. C'est Josh. Parce que c'est lui qui évolue le plus, finalement. Il méprisait Cher et il finit par
la pécho,
la désirer.
Elle le méprisait aussi au début. Hein.
Elle le méprise aussi, mais en fait, je trouve qu'il y a une ambivalence dans ce film qui est un peu gênante. C'est... Il méprise tout ce qui est tout ce à quoi elle s'intéresse. Donc, tout cette superficialité qu'on attribue à la féminité. Et finalement, c'est aussi ce qu'il désire dans une partenaire sexuelle. Donc en fait, je trouve que c'est toute l'ambivalence de... C'est horrible parce que... Ah ouais, je sais pas, c'est ouais. très très étrange.
Je vois ce
étrange.
Que tu veux dire. Ça veut pas dire que je suis d'accord, mais je vois ce que tu veux dire.
Voilà, et puis bah, sinon j'avais un dernier point sur le casting. Je trouve que ça cabotine pas mal, voilà. Ça... Bah... Non mais c'est
mais,
très...
Mais moi j'ai une théorie sur ça, c'est qu'ils pensaient qu'ils faisaient un teen movie qui allait être vu vite fait, qui allait être direct ou DVD, et les mecs ils ont fait un film culte, ils s'y attendaient
ouais,
pas,
peut-être.
Tu vois, ils auraient fait un casting différent. Je pense qu'ils savaient qu'ils allaient faire un film dont on allait parler 25 ans plus tard en disant « Mais attention, mais qu'est-ce qui se passe dans ce film ?» Je pense qu'ils auraient...
Ah ouais, tu penses qu'ils s'attendaient pas.
Il y a une scène sur YouTube qui me fait beaucoup marrer, t'as en fait des behind the scenes en fait, où tu vois les acteurs qui répètent les mêmes scènes et tout. Et un commentaire YouTube m'a beaucoup fait rire qui disait « Si seulement ils savaient qu'ils étaient en train de créer l'histoire à ce moment-là » Et c'est vraiment ça, ce film, je pense ouais. que bah, c'était un sleeper hit en fait. Ils l'ont sorti en juillet, juin, juillet et tout. Ils se sont dit ça fera un petit teen movie pour les gamins. Et le truc a été un succès de ouf. Il y a eu une série dérivée après, il y a eu des revivals, enfin, on en reparle encore aujourd'hui. Enfin, je pense qu'il a été victime de son succès. Et de toute façon, ça se voit parce que dans le casting, il y a des gens qui étaient ultra au top, au zénith à l'époque.
Exactement.
Genre Alyssa Silverstone qui aujourd'hui est nobody, tu vois.
Bah, c'est exactement ce que j'allais dire. En fait, ce casting est nul parce que... Bah déjà, tous les acteurs, à part Paul Rudd, c'est leur seul film connu. Non, mais c'est vrai, il n'y en a pas un qui a percé après.
Il y a quand même Donald, le mec qui joue le mec de Dion, là,
ouais.
qui a fait une série qui s'appelle Scrubs, qui est quand même une série qui a cartonné pendant plusieurs années et tout. Donc bon, c'est de la télé.
Mais ouais,
le
mais
gars,
c'est un
il
personnage
pas,
super secondaire,
il
tu vois.
Il a pas
genre.
Disparu des écrans, quoi.
Alicia Silverstone.
Travis, le mec là, qui joue le copain de Ty.
Oui,
alors lui, il est dans toutes les séries policières, avocats,
et
cartonne. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas eu des carrières cinématographiques flamboyantes, à part Paul Rudd, qui à 50 ans joue toujours les super-héros, quoi.
Ben ouais, puis en fait, même à 50 ans, je me dis, il a toujours l'air d'en avoir 18, quoi.
Ouais.
Moi, je l'adore, hein. Mais,
il est trop bien.
Mais putain, dans le film, il est atroce, quoi. C'est vraiment, son personnage, c'est un rabat. Joie, pas marrant. Il a 10 ans de plus quand même que son personnage.
Ah ouais. Oui, il a 10 ans de plus. Je croyais qu'il avait 10 ans.
Ah non,
le
peut-être pas que son personnage, mais il doit avoir. Enfin, je crois qu'il a 26-27 ans
ouais,
bah, dans le film et voilà, il a presque 30 ans et il joue un gamin. Bon, moi bah, voilà. Bah écoute, c'est tout ce que j'ai à reprocher, mais je trouve ça déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. Tu lui en as déjà mis plein la gueule. Alors, ouais, bon, moi, comme j'ai dit, j'ai découvert en 1995, j'avais 11 ans, j'ai été éblouie, c'était sur cassette vidéo. Les personnes qui me comprennent me comprennent, cassette vidéo. Avec ma cousine, on a regardé ce film, on s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est génial, c'est incroyable. Je me rappelle même que j'en avais rêvé après.
Ouais.
En fait, je pense qu'à l'époque, je le voyais vraiment juste comme un film comme ça, mais il y avait déjà ce côté, tu vois, tu sais, le film que tu, en cassette vidéo, que tu regardes, re-regardes, et je l'ai regardé déjà quand j'étais gamine, genre, je sais pas, peut-être 25 fois d'affilée, et au bout d'un moment, ma mère a dit, bon, c'est bon, on passe à autre chose, et a pris la cassette, et elle me l'a mis de côté.
Alors, plus qu'un film d'ado, toi, c'est ton film d'enfance, presque.
Ouais, enfin, j'étais une pré-ado, quoi. tu vois. Et en fait, je pense que, bon, à l'époque, l'impact que ça a eu, c'était vraiment cet impact visuel, des fringues, le côté aussi de l'amitié, tu vois. Tu dis, ah, c'est ça, en fait, d'avoir une meilleure amie quand t'es au lycée, tout ça. Et donc, il y avait un truc très, comme tu disais, dans l'injonction, en fait, pour être une femme, faut faire ça. Ce qui est à peu près les teen movies, les chick flicks, c'est un peu le mot directeur. Mais du coup, en grandissant et en vieillissant, je trouve toujours autant de plaisir à regarder ce film. Donc au début, je me disais, bon, est-ce que c'est juste de la nostalgie parce que maintenant, t'es vieille et t'as envie à nouveau d'avoir 11 ans. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Je pense que ce qu'on peut dire, effectivement, donc adapté d'un roman de Jane Austen. Et donc, dans Emma, il y a une adaptation cinématographique très mauvaise d'Emma avec Gwyneth Paltrow dans le rôle principal, qui est horrible, où ils sont vraiment en tenue d'époque et tout, à la Bridgerton. Enfin, nul à chier, le film. Et en fait, bon, Emma, c'est une satire. En gros, Jane Austen, elle voulait avoir un personnage principal qui soit hyper lumineux, hyper solaire, qui pense et qui en est consciente, qui sait que, tu vois, elle est plus belle que tout le monde, plus machin, mais qui en fait est aveuglée justement par ce truc de voir que aussi des fois elle prend les mauvaises décisions ou des fois justement elle est égoïste et elle pense qu'à sa gueule. Et donc l'idée de Emma, c'était un peu un apprentissage, en fait. C'est à la fin, elle apprend à être moins égoïste, et je trouve que c'est un trait de génie, en fait, d'avoir vraiment situé cette intrigue qui, en fait, au final est aussi un peu une intrigue, tu vois, de coming of age féminin. Donc c'est déjà rien que ça, c'est révolutionnaire à l'époque. Mais là, le fait d'avoir pris l'Angleterre de la Régence et de l'avoir transposé dans le Beverly Hills des années 90.
Ouais, le lycée où tout est hyper casté aussi.
Et de satiriser, en fait, ça, parce qu'au final, c'était un mode de vie qui était vachement mis en avant à la télé à l'époque. Tu vois, il y avait Beverly Hills et tout. Enfin, et je trouve que c'est vraiment une satire très maligne. C'est-à-dire, en gros, on va faire venir les gens en leur faisant miroiter ça, mais en fait, on va satiriser ce truc en disant que regardez comment ils sont cons, regardez comment ils s'habillent, mais en même temps, c'est des ados. Donc il y a toujours l'espoir qu'ils évoluent à un moment donné. Et je trouve que Amy Eckerling, elle a été vachement smart sur ce script.
Mais tu trouves, enfin pardon, objection.
Vas-y.
Tu trouves vraiment
objection, pardon.
Tu trouves vraiment qu'elle évolue et qu'elle devient moins égoïste?
Bah à la fin, elle a son relooking spirituel quand même.
Non,
tu vois,
mais d'accord, mais ça intervient dans les 5 dernières minutes.
Non, dans les 20 dernières minutes. Et le côté, tu vois, où elle se dit, bon, en fait, je suis une connasse. Rien que ça, tu vois, c'est se dire, putain, la meuf, elle a quand même eu ce retour sur elle-même où tout le monde autour d'elle lui dit, t'es génial. Et à un moment, elle dit, non, là, je suis une connasse et je vais donner mes affaires aux pauvres, je vais essayer de m'investir. Enfin, tu vois, même si, bon, c'est pas l'évolution du
siècle. C'est
un peu
siècle. Pour se donner bonne conscience aussi.
Un petit peu, mais malgré tout, on peut le souligner.
Oui, elle le fait.
Elle aurait
pu
dire, j'en ai rien à foutre, je suis une boss bitch et ciao, quoi. Et effectivement, le fait qu'elle se mette avec son demi-frère à la fin, ça casse un peu le truc. Mais tu vois, jusqu'ici, elle était en mode... ça, c'est un peu sexiste aussi. En fait, mes arguments sont en train de se retourner contre moi. J'allais dire, en fait, jusqu'ici, elle était en train de se dire, je suis trop bien pour les mecs, mais finalement, à la fin, il y en a un qui est assez bien pour moi. Mais effectivement, c'est sexiste. Mais l'idée, c'est de peut-être... pour moi, et je pense qu'on peut faire un parallèle avec Mean Girls, Lolita malgré moi, entre Regina et Cher, je trouve que c'est intéressant parce que Regina, c'est un dictateur.
Oui, elle est vraiment méchante, elle, pour le coup.
Regina, elle règne sur son univers, tout comme Cher règne sur son univers, mais Regina, elle règne sur son univers grâce au chantage affectif, grâce à la violence psychologique, grâce à des trucs hyper hardcore, alors que Cher, elle règne comme étant un bon roi, quoi. Tu vois, elle règne parce qu'en fait, les gens la trouvent
sympa,
drôle. Effectivement, elle est privilégiée par rapport aux autres, elle a de l'argent, donc ça lui confère un statut et tout. Et donc, je trouve que c'est intéressant parce que c'est deux figures de féminité hyper puissantes, mais qui règnent de manière différente. Et je pense que c'est aussi pour ça que ce que tu disais, tu vois, le côté innocent, le côté bienveillant et tout, qui découle de ce film-là, je pense que c'est vraiment dans l'écriture de Jane Austen et du coup de Amy Eckerling, c'est de créer un souverain bienveillant. Et je trouve ça intéressant parce que du coup, ça m'inspire aussi, tu vois, au quotidien. Je me dis, quand t'as des responsabilités, des fois, comment tu fais pour être un souverain bienveillant et pas un dictateur, quoi?
Oui, c'est vrai.
Et voilà, du coup, c'est une vision un peu plus profonde du film et tout, qui peut-être n'existe pas, mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois.
Non, mais je suis d'accord, et dans le sens aussi où il y a quand même beaucoup plus de sororité que dans Mean Girls, où c'est
Bah Mean Girls, c'est vraiment.
C'est
le
vraiment, il y en a qu'une
quoi.
Qui peut être au top et battez-vous pour l'avoir. Alors que
ouais,
là, c'est...
Mean Girls, c'est un film de guerre, quoi. C'est comment détruire ouais. ton ennemi, en fait.
Oui, c'est mais vraiment ça.
Comment détruire ton ennemi en faisant semblant de pas le détruire et d'être une gentille fille, tu vois. Donc il y a un truc, c'est jouissif, mais c'est ultra violent, quoi.
C'est très violent comme film, ouais.
Et alors que pour le coup, Clueless, c'est beaucoup plus. Bah voilà, j'ai cette responsabilité. C'est cool quand même parce que je suis quand même trop cool. Mais comment je peux faire pour améliorer les choses, tu vois ? Moi, je trouve que c'est un postulat qui se tient, tu vois.
Ouais, ouais, non, mais après, je suis d'accord que c'est quand même un des moins pires. Enfin, ouais. Niveau teen movie, niveau même sororité, elle se dispute avec Tai, donc la nouvelle arrivante dans le lycée, qu'elle prend d'abord sous son aile.
Une vierge qui ne sait pas conduire.
You're a virgin who can't drive. Oh, that was way harsh, Ty.
La meilleure phrase, putain.
C'est super blessant.
Non, mais il est trop bien, ce film, arrête.
En vrai, j'avoue, je peux pas dire que je rigole pas devant ce film.
Mais c'est génial. Les dialogues sont incroyables. Et alors, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu en VF, mais en VO, je trouve ça intéressant parce que Amy Eckerling, elle a dit qu'elle était quand même allée dans les lycées et qu'elle avait écouté comment les ados y parlaient en disant « intéressant !» Et que du coup, après, elle avait recréé un langage qui était pas tout à fait celui qu'elle avait entendu parce qu'elle savait que ça allait vieillir. Mais du coup, qu'elle a inventé des trucs et qui sont rentrés dans le langage courant. Je trouve ça
mais le
dingue.
As if. Passion, j'ai envie de le dire tout le temps. Non, ça dévie complètement de l'accusation, là.
Et voilà, après, il y a un autre aspect aussi, moi, qui me parle dans ce film, c'est le côté amitié. Tu le dis un peu, sororité, tu vois. Mais le truc avec Dionne, bah, non seulement, vous en avez parlé dans les autres épisodes sur les teen movies, mais enfin, il y a quand même un manque de représentation des personnes racisées dans les
clairement.
Teen movies, notamment les teen movies féminins. C'est quand même quelque chose de très, très, très prégnant. Et le fait d'avoir Dionne, bon, même si c'est le rôle d'une meilleure amie, je trouve que c'est intéressant parce que il y a tout un aspect où, en fait, c'est montré comme étant... Enfin, tu vois, elles sont sur un pied d'égalité, quoi. C'est pas genre un
sidekick.
Ouais, tu vois, c'est pas
oui, elle fait
sbire.
Un peu sa life, Dionne. En
ouais,
fait, on sent que le...
Dionne, elle a son mec. Ouais, ouais, elle fait sa jamais life. Tu fais n'importe quoi. Enfin, tu vois, il y a un côté... C'est un peu la version face de Cher. D'ailleurs, elles sont habillées pareil dans la première scène. Enfin, il y a tout un truc autour de ça que je trouve assez intéressant. Évidemment, c'est pas idéal, hein, parce qu'en vrai, on aurait bien aimé un personnage principal noir. Ce n'est pas encore arrivé. Mais je trouve que c'est intéressant et je trouve que ça respire vraiment les années 90, le côté où en fait, on se soucie pas trop, tu vois, des trucs raciaux, on n'y pense pas trop et tout. C'est très simpler times, quoi. Mais...
Ouais, bah ouais, j'imagine. Mais ouais. Mais oui, je ne les ai pas vécues ces années, mais
tu étais en train de jouer au Lego.
Exactement. Bah écoute, je pense qu'on a bien défriché le truc. Yes. Je te propose de passer à la deuxième partie de ce process, c'est-à-dire le retournage de cerveau. C'est parti.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Round 2, fight.
Alors, le retournage de cerveau, qu'est-ce que c'est ? Chacune, on va prendre une scène du film. Toi, tu vas prendre une scène qui va te servir à essayer de me retourner.
Que ce film est bien.
Voilà, à me convaincre que ce film est bien. Et moi, je vais essayer de te convaincre que c'est le pire film. je vais commencer, du coup, puisque je suis l'accusation. Je prends la scène du makeover.
Squeeze your buttocks when you come up.
Squeeze it. Yeah, I don't want to do this anymore. And my buttons, they don't feel nothing like
now
steel.
Down,
okay,
two.
It will get easier, I promise. Just as long as we do it every day, not just sporadically.
How do you know if you're doing it sporadically?
That's another thing, Ty. We've got to work on your accent and vocabulary.
See, sporadic means once in a while. Try and use it in a sentence today.
All right. Okay.
Peut-être l'une des pires scènes de makeover de l'histoire des teen movies.
C'est la pire. Bon, déjà, la scène de makeover, c'est une scène qui est hyper récurrente dans tous les teen chick flicks.
Le relooking
de l'outsideuse, c'est-à-dire une fille qui arrive dans ce groupe de gens populaires et il faut la mettre aux normes. Voilà, il faut la mettre au cordeau. Donc voilà, comment on va l'habiller ? On ratiboise tout, change de personnalité et tu rentreras dans le moule. Et en fait, donc dans Clueless, c'est Ty qui arrive dans le lycée à peu près au milieu du film et Cher décide de la prendre sous son aile. Il n'y a pas du tout de rivalité entre elles, mais elle décide d'en faire mini elle, quoi. Elle, c'est son projet. Elle l'appelle son projet, son poulain. Voilà, c'est c'est un peu réifier les gens, mais voilà. Et donc dans cette scène, la scène du makeover, c'est souvent rythmée par une musique hyper entraînante, souvent très drôle. Et celle-ci est particulièrement spectaculaire puisqu'on voit Ty dire non de la tête. On la force à être maquillée, on la force, on lui découpe ses vêtements. C'est d'une violence, mais il y a une musique dessus, donc
elle
ça va.
Elle est bien
quoi.
La chanson. Hein. Mais... I believe I'm you.
La chanson est super, ce n'a aucun rapport avec ce que je dis. Mais voilà, on lui force une forme de féminité déjà bien cadrée, hyper. Enfin, on la fait rentrer dans le moule. On lui dit aussi à travers le film quels hommes elle doit aimer, comment se comporter. On dirait un peu, tu sais, My Fair Lady des années 90. Et à la fin, en fait, finalement, même quand elle est rentrée dans le moule, c'est là que Cher dit. « Ah mais attends, je veux pas du tout qu'elle soit à ma
j'ai
place. »«
J'ai créé un monstre !»«
J'ai créé un monstre !» Et donc voilà, et en fait, à la fin du film, elle redevient pas du tout comme
alors,
au début.
Objection, Paul oh là Rudd, là là là. Josh, le dit à Cher que justement ce qu'elle a fait est pas bien. Donc le film a un peu un regard sur ça en disant « Ouais, tu utilises cette meuf comme si c'était ta poupée. » Alors qu'en fait...
Objection de l'objection.
Contre-objection.
Contre-objection, Paul Rudd dit aussi que cette fille est plus clouless encore que Cher et elle la méprise d'autant plus.
« What do you think ?»
I'm amazed.
That I'm devoting myself so generously to someone else?
No. That you found someone even more clueless than you are to worship you.
Donc franchement, il peut dire tout ce qu'il veut. À la fin, il a plus envie de la pécho qu'au début. Et c'est grâce à Cher. Enfin, c'est le message que ça renvoie en tout cas. Elle a aussi une phrase qui est super cruelle. Qui est « Je vais transformer cette pauvre âme en pin-up convoitée. Sa vie sera meilleure grâce à moi. »
I'm gonna take that lost soul in there and make her well-dressed and popular. Her life will be better because of me. How many girls can say that about you?
Mais en fait, ça, je trouve que ça fait écho pas mal. Pareil, c'est dans Jane Austen, en fait. C'est Harriet, il me semble qu'elle s'appelle, la jeune femme que Emma prend sous son aile, avec ce côté... sauf que dans Emma, en gros, elle lui dit « Viens, je vais te trouver un mari. » En gros, c'est ça le truc. Donc, tout le truc entre Travis et Ty dans Clueless, où en gros, elle dit non, sors pas avec lui, c'est un loser, sors plutôt avec machin, c'est dans Emma aussi. C'est-à-dire qu'en fait, elle lui dit vas-y, marie-toi avec lui. Et en fait, le gars, il a déjà deux meufs à côté sur le teco,
c'est entre le pire gars.
Des enfants et tout, c'est le pire gars. Donc, après, cœur brisé, machin. Mais moi, je trouve que c'est smart et que, au final, est-ce que le relooking, le makeover, c'est pas un passage obligé du chick flick? Ça veut pas dire que c'est pas un passage oppressif et ça veut pas dire que ça devrait pas disparaître. Mais. Je peux pas leur en vouloir. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'étais là genre oh, « Si seulement Cher me prenait pour faire un relooking !»
Mais oui, mais c'est ça. Et c'est ce que je me dis. Et franchement, Ty, elle arrive au début au lycée. Elle fait du dessin.
Ouais.
Et en fait, on oublie complètement cet aspect-là.
C'est peut-être le truc le plus violent quand elle lui dit « Arrête de dessiner et parle pas à Travis. » Moi, c'est le truc à chaque fois je suis là genre oh, « Mais arrête
mais oui,
ça se voit trop qu'ils se sont fait l'un pour l'autre !»
Mais
et
de
tout.
Ouf. Et du coup, après, ça se termine quand même plus ou moins bien. Ouais. Mais elle a quand même changé. Et les dernières scènes où elle est au skatepark, elle a un look différent des premières scènes où elle arrive. Donc finalement,
en fait, est-ce qu'elle n'est pas revenue à un truc qui lui permet d'évoluer
milieu,
dans son nouveau milieu, tout en étant plus elle-même que quand elle était complètement makeoverisée, lobotomisée.
Ouais, mais est-ce qu'elle est plus elle-même au milieu ou est-ce qu'elle était plus elle-même en arrivant avec son accent, avec ses...
Après, est-ce qu'on n'évolue pas aussi avec notre environnement ? On va
si,
partir dans
sûr.
Un truc très philo, là.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr, on évolue. Mais... Et après, peut-être qu'il y a besoin de violence et de trauma, parce que le monde est violent et traumatique. Mais je me dis, franchement, si on pouvait éviter de mettre les meufs dans cette situation de makeover
en fait,
obligatoire...
Je pense que le makeover
physique,
aurait peut-être une fonction libératrice, effectivement, si c'était comme celui des mecs, quoi. Si c'était une meuf qui décidait, bon, allez, j'en ai marre d'être...
comme Cher,
d'être
qui
un
fait
sac.
Un makeover spirituel.
Tu vois ? Non, mais vraiment, tu vois, je pense que si c'était effectivement volontaire de la part de la meuf, peut-être qu'il y aurait quelque chose de libérateur. Mais là, ouais, c'est clairement violent, elle dit non, il y a tout un aspect...
Il n'y a aucun consentement, hein, c'est compliqué, quoi, comme scène.
C'est... Ouais. Mais bon, comme j'ai dit, la musique est bien.
Quelle mauvaise foi, ce fou.
L'argument foirax. Voilà.
Mais alors, c'est laquelle ta scène avec laquelle tu vas essayer de me retourner
alors,
le cerveau?
Moi, j'ai envie de parler de la fameuse scène qui était dans le trailer à l'époque, où tu vois Cher qui parle en cours, qui fait un débat.
Ah oui.
Et qui prend le pour expliquer pourquoi on devrait accueillir les Haïtiens aux États-Unis suite aux problèmes politiques qui se passent là-bas, pourquoi on devrait les accueillir en tant que réfugiés, et qui prend l'exemple de la fête de son père.
So, okay. Like right now, for example, the Haitians need to come to America. But some people are all, what about the strain on our resources? And it's like when I had this garden party for my father's birthday, right? People came that like did not RSVP. So I was like totally bugging. I had to haul ash to the kitchen, squish in extra place settings, and like people were on mismatched chairs and all. But by the end of the day, it was like the more the merrier. And so if the government could just get to the kitchen, rearrange some things, we could certainly party with the Haitians.
Wow. You guys talk like grown-ups.
Oh, well, this is a really good school.
En fait, ce que j'aime dans cette scène, c'est que je trouve que c'est vraiment le personnage de Cher. On dit, ah, elle est concon, elle est nunuche, on a envie de lui mettre des claques et tout. Moi, je trouve que Cher, et ça, c'est bien expliqué dans le film, c'est la fille d'un avocat. Mm. Donc, c'est quelqu'un qui sait négocier, c'est quelqu'un qui sait plaider.
Et se sortir de toutes les situations.
Voilà, avec le bagou. Même si t'es pas d'accord avec ses arguments, et même si tu trouves que c'est concon son truc, comme son prof d'ailleurs le trouve et lui dit « tu vas avoir un 6 sur 20 et tu te tais », je trouve que c'est intéressant qu'elle ait confiance en elle. Et je trouve que les jeunes femmes dans la fiction sont souvent, en tout cas les jeunes, très jeunes femmes ados, sont souvent, tu vois, genre pas très sûres d'elles, tout ouais. ça. Et là, il y a ce côté que j'aime
elle
bien.
Elle s'excuse pas du tout d'exister. Ouais.
Même si elle dit de la merde, et ben en fait, elle dit son truc et Tu vois ce qu'elle veut dire, tu dis bon oui ça tient pas trop la route, mais je comprends. Et puis c'est une scène comique ultra drôle, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont mis dans le trailer, parce que c'est super drôle. Elle prononce mal le mot haïtien, enfin elle est là genre ouais allez on va mettre des chaises et des tables et puis les haïtiens pourront venir et tout, et puis tu vois la tête consternée des gens en contre-champ, donc c'est très très drôle. Mais moi c'est une scène que je trouve marrante, parce que je trouve que ça donne vraiment la parole au personnage principal, et ça montre, c'est l'essence du personnage quoi. C'est ça a l'air concon, mais tu grattes et au final ça tient la route, et ça découle vraiment de son père qui lui dit faut négocier pour tout, tu vois, si t'as eu un 15 sur 20 tu négocies pour avoir un 18 et tu t'en bats les couilles, tu vois.
Ah oui, quand elle lui rapporte son bulletin et, oui. que, tout ses,
et que toutes les notes ont changé
en A
et qu'il lui dit bravo,
je ne pourrais pas être plus fière. Mais en fait moi c'est ça que j'aime, enfin moi c'est vraiment un des aspects du film que j'aime bien pour le coup. C'est vraiment ce côté où t'as pas besoin d'en fait de te conformer non plus à un système scolaire qui est quand même pareil ultra, faut rentrer dans le moule, faut ouais. travailler d'une certaine manière, et tout le monde n'est pas fait pour ça. Et je trouve qu'elle envoie un message super positif en mode bah moi j'ai du bagou, moi du coup je vais utiliser mes qualités pour réussir. Et elle le fait, et elle, je la vois trop faire Legally Blonde derrière.
Voilà, tu l'imagines à Harvard après.
Ouais, non, mais pourquoi pas, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai souvent confondu les deux films Legally ouais. Blonde et Clueless.
C'est vrai que je pense que c'est un descendant spirituel. Bah, il y a toute cette lignée des teen movies américains, tu vois. Dans les années 80, t'avais Heathers, je sais pas si t'as vu ce film.
Ouais, ça devait être tout pareil.
C'est avec Winona Ryder, et ouais. elle arrive au lycée, et en fait, il y a une clique de meufs qui s'appelle toutes Heathers, et elle devient pote avec eux, alors qu'elle s'appelle Veronica, tu vois. Et donc il y a tout ce truc de la clique machin, il y a un personnage de Regina George aussi, puis après t'as Clueless dans les années 90, puis après t'as Mean Girls dans les années 2000. Il y a vraiment une filiation entre ces films là, et je trouve ça intéressant. Enfin, moi j'aime vraiment ce côté bienveillant, et ce côté tu vois, en fait tu peux être smart et tu peux en fait toi-même créer le moule, même s'il est oppressif, parce qu'on est en 1995 et même en 2020 on serait quand même dans un moule oppressif, parce qu'un moule c'est oppressif de base. Mais je trouve ça intéressant qu'au final, c'est quand même elle, tu vois, qui crée un peu les règles du jeu. Parce qu'elle est justement le souverain du monde, quoi. Enfin, du monde dans lequel elle vit, quoi.
Bah, merci beaucoup, Mélanie, d'avoir choisi cette scène. J'avoue, c'est pas celle que j'aurais choisie.
T'aurais choisi laquelle ?
Je sais pas. Moi, j'aurais pris une scène marrante, parce que pour moi, c'est le point fort de ce film, c'est qu'il est drôle et avec des répliques marrantes. Moi, j'ai
quand elle choisit ses fringues sur l'ordinateur.
Ça, c'est top. Ça, c'est très 90s.
On n'a pas parlé de la technologie dans ce film, mais c'est un truc de ouf. Hein. Ouais. Tout ce qu'ils font, maintenant, on se dit, ouais, ok. Mais en 1995, tu te tombais de ta chaise. Hein.
Ouais,
genre le téléphone
là, le
portable dans la cour de récré, t'appelles ton
mais
pote.
D'ailleurs,
et tout.
Avec ma coloc, on l'a regardé hier soir, et on voit à un moment, elle a une chaîne accrochée à son téléphone portable. Ouais. En fait, on n'a rien inventé. du
non,
tout.
Non. C'était... Et à l'époque, enfin, 1995, en France, il n'y avait pas de téléphone portable grand public. Tu vois, on a commencé à avoir des téléphones à peu près en 97-98. Donc quand tu vois ce film, t'es là genre what the fuck, ils ont des téléphones à l'école, incroyable. Et le fait qu'elle puisse choisir ses vêtements sur son ordinateur avec le truc tactile alors qu'il n'y avait pas de tactile à l'époque, non mais t'imagines pas, c'était un truc d'ouf. Et d'ailleurs il y a plusieurs entreprises qui ont essayé de recréer cette appli en vrai. C'est trop marrant, ça marche pas et tout. et ouais, non, et puis même quand tu vois, il y avait même des scènes comiques justement à cause de la technologie, notamment quand ils sont à table avec le père et Josh et que t'as le téléphone qui sonne, ils ont tous la même sonnerie, donc ils sont là genre ah
oui,
putain et
vrai,
tout
ouais.
À l'époque
oui.
On avait tous les mêmes sonneries, je tiens à le rappeler pour les vétérans.
Moi j'avais pas du coup
mon premier téléphone, un Alcatel où il y avait trois sonneries. Et oui, et j'avais la même que ma meilleure copine, et on se battait pour savoir qui avait le droit d'avoir cette sonnerie. Enfin, c'était un autre monde que celui d'aujourd'hui.
Ouais,
et
c'est
je pense
clair.
Qu'il faut le remettre en contexte.
C'est ça. Mais moi j'ai hésité aussi à prendre pour ma scène la scène où elle se fait agresser, puis
j'allais en parler parce qu'il y a des gens qui, enfin, on en parlera au round 3, mais il y a des gens qui vont prendre des peines de prison pour cette scène. Donc.
Je pense que oui, c'est une bonne idée. On va lancer tout de suite le troisième round, le jugement.
Final round. Fight.
Et donc, c'est parti pour le jugement. Le jugement va un peu changer par rapport au procès qu'on avait fait sur Love Actually. On va pas donner une note, mais on va plutôt donner des peines au film. Voilà, on va discuter et essayer de tomber d'accord sur une peine que le film devra remplir. Bien sûr, sous notre autorité, puisqu'elle est toute puissante. Alors moi, j'avais noté une directrice de casting compétente.
T'es méchant. C'est vrai, on a pas souligné, mais Dionne, qui est incarnée par Stacey Dash, donc Stacey Dash est devenue une conservatrice d'extrême droite qui prenait la parole sur Fox News et qui disait n'importe quoi sur Black Lives Matter et tout. Donc elle est cancel, hein, on l'aime plus du tout, mais malheureusement, elle a un rôle iconique. Donc,
mais ouais, c'est toute la complication.
Le casting, j'avoue.
Le casting, ou alors des cours d'acting pour Alyssa Silverstone. Parce que...
Je trouve qu'elle est pas bien. Moi, je trouve qu'elle joue bien le côté...
Mais en fait, elle cabotine de fou. Et du coup, mais c'est drôle, les 15 premières minutes. Après, t'es là... Enfin, elle a des jérémiades hyper agaçantes. Et tu vois, typiquement, ouais. Moi, c'est le genre de film, je pense que j'aurais eu du mal à avouer que je l'aimais quand j'étais jeune. Parce que tu vois, tous les garçons détestent ce genre de filles. Détestent, enfin, tu vois... Ils...
Jusqu'au moment où il faut les pécho. Hein.
Voilà, exactement. Et ça m'énerve. Voilà. J'avais mis une scénariste compétente aussi. Voilà, parce que je trouve qu'il manque vraiment une arche narrative.
Mais alors ça, pour moi, non seulement je trouve que ça colle bien à Emma, mais je trouve que c'est des scénettes satiriques. Moi, je le vois vraiment comme des scénettes satiriques. Et il ne faut pas oublier qu'à la base, Clueless avait été écrit pour la télévision. Et, ils l'ont vendu après en tant que film. Mais à la base, c'était une série. Ils ont fait le film. Et après, ils l'ont décliné en série. Une série qui n'est pas bien. Donc, ne la regardez pas. Du coup, ce côté scénette, dans le cadre d'une satire, moi, je trouve que ça tient à peu près la route. Mais c'est vrai que ça aurait été
mieux. On dirait un peu un film à sketch, quoi. Enfin,
ça aurait été mieux qu'il y ait, en plus des scénettes, un truc, un arc global par-dessus.
On sait même pas où elle va. On sait pas quelle.
C'est qu'elle évolue au fur et à mesure des scénettes, quoi.
Ouais, alors qu'elle le fait bof quand même.
Bah, d'une scénette à l'autre, elle évolue un petit peu. Et du coup, elle a
évolué. Hein, ouais. Et aussi, bah, j'ai mis que Amy Eckerling aurait dû enlever Josh de la famille de Cher.
Ils n'auraient jamais dû en faire son demi-frère, en fait.
Bah, en fait, c'est compliqué parce que c'est pas vraiment son demi-frère par le sang, parce qu'ils partagent aucun parent.
Ouais.
Mais
et puis après, ils ont divorcé. Mais bon, leurs parents, ils ont couché ensemble. Quoi.
Mais leurs parents ont couché ensemble, et en plus, ils ont été élevés comme frères et sœurs, en fait.
Non, pas très longtemps, elle l'explique dans le film.
Non, mais pas longtemps, mais quand même.
On a été frères et sœurs pendant 2 ans, ça va.
Oui, mais à un moment, il lui dit, ce serait bizarre que ton frère vienne te suivre partout. Et donc, ça veut dire qu'il se voit bien comme son frère. Et elle lui dit, mais non, t'es pas mon frère. Donc elle, ça me choque pas trop qu'elle le pécho, tu vois. Mais lui, ça me choque qu'elle le pécho, tu vois. Enfin, qu'il l'a pécho.
Ouais, je comprends ce que tu dis, je comprends.
Voilà. Et puis, des petites peines de prison pour la scène...
quelques petites peines.
Des petits travaux d'intérêt généraux pour la scène où elle se fait cambrioler à main armée.
Ouais. D'abord, elle se fait harceler sexuellement.
Elle se fait harceler sexuellement par ce vieux gars.
Donc, Jérémy Sisto qui joue le rôle de Elton, qui était le gars qui était soi-disant destiné à Ty, et qui au final, non, mais il lui a dit, mais jamais, elle est pas assez bien pour moi, c'est toi que je veux. Et donc, après, il la harcèle sexuellement en lui disant, laisse-moi t'embrasser dans la voiture. Jusqu'au moment où elle dit non, il dit, et elle sort de la voiture, et il lui dit, vas-y, remonte bébé, elle lui dit non. Et là, il se casse et il la largue toute seule au fin fond de la Californie, elle sait pas trop où. Et là, à pile à ce moment-là, il y a un gars qui lui dit « Vas-y, maintenant, tu me donnes ton sac à main avec un gun. »
Tout à fait.
Voilà. Donc, c'est une scène belle qui est peut-être la scène la plus violente du film. Hein, on va
passer. Ouais, et puis, mais elle, en fait, tout lui glisse un peu dessus. C'est-à-dire que voilà, ce qui la dérange au maximum à ce moment-là, c'est de s'allonger par terre avec sa robe Prada.
Mais ça tire ! Non, pas de ma drogue !
Non, mais voilà. Mais en fait, et c'est pas du tout un sujet. En fait, je trouve que tout est... ça va aussi avec le côté scénette. Tout est abordé hyper superficiellement. Et rien ne va au fond des choses. Et tu vois, rien que elle sort avec son demi-frère, on sait jamais ce que le père en pense. Elton, là, on sait jamais ce qu'il devient. Et enfin,
ouais,
s'il
moi,
se fait
ça m'a
punir.
Parce que moi, personnellement, j'aurais porté plainte contre lui.
Bah ouais, de ouf.
Alors que le lendemain, elle est en cours à côté de lui. Elle dit, bon, maintenant, il me faut un relooking de l'âme. Et puis, ouais. Le gars, tu l'as pas dégiflé entre temps. Enfin,
ouais, non, c'est clair. Du coup, il y a plein de trucs qui sont pas exploités à fond. Donc, je comprends l'idée de vouloir en faire une série, mais c'est, apparemment, c'est pas bien non plus. Quoi.
Non, la série, en fait, ils l'ont vraiment fait pour les enfants. Donc, du coup, tout l'aspect satirique est complètement évacué et c'est vraiment une série premier degré mais très mal écrite, très mal tournée, très mal jouée parce que du coup ils ont remplacé Cher et après t'as tous les autres personnages par contre qui sont revenus parce qu'ils n'avaient pas de taf.
Ah, yes.
Et du coup il y a juste Cher qui est une autre meuf
mais pas Paul Rudd quand même.
Si Paul Rudd revient à un moment mais il joue un autre rôle.
Paul Rudd il est partout.
Il joue un autre rôle et il l'a fait pour Amy Heckerling parce qu'il s'entendait bien et tout. Et donc moi, ma peine de prison, je tiens à le dire, c'est donc pour Elton, harceleur sexuel et non-assistance à personne en danger, car il la laisse dans
tout
la nature,
à fait.
6 mois de prison ferme, an de travaux d'intérêt général et obligation de don à 3 associations féministes.
Bravo, mais voilà. Moi je trouve que c'est une très belle peine. Merci d'avoir rejoint le camp des accusations.
Non, mais au moins pour les harceleurs sexuels, voilà. Après j'ai des prix aussi, je sais pas si on peut...
Veux décerner un prix ?
Un prix, ouais. Bon, déjà, j'exclus de la communauté afro Stacey Dash, du coup, qui joue le rôle de Dion. Dion peut rester, mais Stacey Dash doit partir.
D'accord.
Et je décerne un prix Nobel à...
Un prix Nobel !
À Cher Horowitz.
Je vais devoir objecter, hein.
pour son travail autour de sa communauté et pour contribuer à rendre le monde meilleur. Et... Et je donne un prix, j'ai noté prix du scénario, mais je me souviens plus pour qui tu m'as retourné le cerveau.
Ah, yes! Ça a marché!
Non, prix des dialogues. Je trouve que les dialogues, ils restent avec le temps. 25 ans plus tard, on rigole encore sur les phrases débiles et tout.
Le as et f.
T'es une vierge et tu sais pas conduire, donc t'es plus ma copine. C'est trop marrant, quoi. Ouais. Donc,
Non, mais
et on n'a pas dit aussi, mais le monnaie, tu sais, c'est quand il y a une meuf.
Ah oui,
de loin ça va, mais quand
ça, c'est horrible.
C'est horrible, mais c'est quand même drôle.
Attends, qu'est-ce qu'on disait au collège ? T'es belle de loin, mais t'es loin d'être belle.
C'est horrible.
Atroce.
Mais ouais, c'est drôle. Et puis voilà, non, les dialogues, franchement. Et je décerne un prix de la technologie au truc pour choisir ses vêtements en appuyant sur l'ordinateur. Voilà.
Mais non, mais comme quoi, ça revient vachement vite à la mode parce que je vois toutes les friperies vintage et tout qui se resservent de Clueless.
Ouais.
On
n'a pas parlé des costumes très longtemps, mais en gros, toutes les
prix des costumes quand même.
Tu sais que prix des costumes. Tu sais que la robe quand elle sort avec Christian et qu'elle va dans la salle et que son père il dit non mais comment t'es habillée, ça va pas ou quoi et tout.
Ça j'aurais pu prendre ça comme scène aussi. Hein.
You're not letting her go out like that, are you? Cher, get in here.
What's up, Daddy?
What the hell is that?
A dress.
Says who?
Calvin Klein.
It looks like underwear. Go upstairs and put something over it.
Et donc tu sais que Calvin Klein du coup, qui est le créateur de cette robe, a réédité une robe pour les 20 ans de Clueless. Ils ont réédité cette robe pour qu'on puisse l'acheter et donc c'était il y a 5 ans quoi. Enfin, l'impact quand même des costumes et l'impact de ce film. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est, on le voit à un moment quand elle parle des garçons qui sont tous habillés avec des casquettes et des baggies dégueulasses et tout. À l'époque, la mode, c'était vraiment le grunge. C'était Nirvana, c'était les chemises de bûcheron, c'était les jeans un peu troués, les pulls un peu dégueu.
Comme taille au début, alors, en fait.
Comme taille au début, les garçons et les filles s'habillaient comme ça. Et Clueless, quand le film est arrivé, donc avec ses costumes qui étaient quand même complètement issus d'un mélange, tu vois, qui venait de nulle part, qui ne ressemblait pas à la réalité, a relancé la mode du prépi. habits, la mode des jupes, la mode des petites chaussettes, la mode des machins. Il y a vraiment eu un impact sociétal de ce film sur la mode.
Ah ok, je pensais que c'était justement, je pensais que c'était l'inverse, mais non, pas du tout. Ok.
Nope. Et vraiment, du coup, et c'est un impact qui se ressent sur plein d'autres films et de séries après. Tu vois, par exemple, Buffy, dans la saison 1, elle est vraiment habillée comme Cher, avec les petites mini jupes et tout. Enfin, donc
oui,
voilà.
C'est vrai.
Très gros impact. Donc, prix pour les costumes.
Prix pour les costumes. Et puis, bah voilà. Bah écoute, je pense qu'on est pas mal tombés d'accord sur ce jugement. Si vous êtes d'accord avec nous, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires sur Apple Podcast en nous mettant 5 étoiles si vous avez adoré ce podcast. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous puisque vous savez, le bouche à oreille, c'est ce qui marche le mieux en termes de podcast. Et puis, bah écoutez, on se dit à très bientôt.
Salut
dans un nouvel épisode d'Affiché.